des vacances, tu penses pas? Et alors les bêtes?
Je suis pas surpris. Dès que je t'ai vu, je suis que tu tiendrais pas le coup. On aura beau vous apprendre le métier dans les écoles, c'est pas un travail de femme.
CO2, mon amour.
La terre, ça demande du courage, de la force musculaire, de la constance. Mais vous, les femmes, vous changez d'humeur comme vous changez de vêtements.
Vous êtes vraiment aigri à arriérer. Hein.
Tu méritais pas ma firme.
Denis Chessou.
Tu sais quoi? T'es vraiment un vieux con.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement, CO2 mon amour, parce qu'on n'attend pas le changement mais que nous sommes le changement. Prenez votre temps si vous êtes sur la route, on va vous accompagner avec des nouvelles quand même relativement positives. Et il y en a quelques-unes avec des femmes qui sont véritablement sur le terrain et qui font beaucoup de choses. Aujourd'hui, Henri Bérec et Florent Layani à la technique, à la régie Elisabeth Gornet et puis assistée de Claire Destacan. Je n'oublie pas Albert Houque du Maine-et-Loire, Xavier Pessugia réalise l'émission. Et comme on a une riche actualité, et bien évidemment une petite humeur. Alors, tout le monde connaît le principe pollueur-payeur. Par exemple, vous, là, vous êtes élève pétrolier, qu'est-ce que vous en pensez? Oh, à vrai dire, c'est pas terrible ça, hein, ça peut nuire aux entreprises, aussi bien à leur image de marque qu'à leur trésorerie. Par exemple, si on cochonne sans faire exprès des plages de l'Atlantique avec du bon vieux fioul lourd, et ben après, on est peut-être forcé de payer le nettoyage et de dédommager les communes. Ah oui, c'est sûr, c'est embêtant. Et qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous, donc, élève pétrolier? Eh ben, il faudrait plutôt instituer un principe pollué-payeur. Hein, ce serait quand même plus juste. Le coût du nettoyage serait réparti sur le plus grand nombre. Ça serait équitable. Ah ouais, bien, ça veut dire individualisation des profits et mutualisation des pertes, en quelque sorte, élève pétrolier. Ah bah oui, puis ça, c'est pas nouveau non plus. Hein. Déjà qu'on fait tout pour ne pas payer d'impôts en France, alors si maintenant il faut en plus payer nos amendes, c'est la fin de tout. Alors, réjouissez-vous, élève pétrolier. Le gouvernement a pensé à vous à travers un bel amendement, un quasi-copié-collé émanant du MEDEF, dans sa loi sur la biodiversité. Que disait cet amendement dont la durée a été que de quelques heures? Eh bien, désormais, si vous avez obtenu une autorisation administrative en bonne et due forme pour exploiter quelque chose, et que pas de chance, eh bien, ça se barre en quenouille pendant les travaux ou durant l'exploitation, c'est le contribuable, oui, qui paiera la pollution. Adieu la responsabilité de l'entrepreneur dans le préjudice écologique. Alléluia! Qu'est-ce qu'on dit à un gouvernement aussi préoccupé de la bonne santé de ses industriels, hein? Alors tenez, un autre exemple avec Arnaud Gossman, qui est avocat environnementaliste, qui a vu passer le premier cet amendement là cette semaine et qui a fait sortir le sujet qui a été repris par les médias et les réseaux sociaux.
C'est un peu comme si jamais je renverse un piéton avec ma voiture, on ne puisse pas me poursuivre parce que j'ai un permis de conduire et donc il faudrait s'en prendre à l'administration qui m'a délivré le permis de conduire. Un autre exemple, c'est effectivement si un industriel relargue dans l'environnement une pollution, type boue rouge par exemple. Si jamais cet industriel a eu un permis, une autorisation administrative pour exercer son activité, il pourra effectivement, avec ce texte, dire « Ah, vous ne pouvez pas rechercher ma responsabilité. Pourquoi ? Parce que j'ai un permis. » Et donc, c'est l'État que vous devez rechercher en responsabilité. Au bout du bout, on arrive à quoi ? On arrive à une situation où ce n'est pas le pollueur qui doit être payeur. On arrive à une situation où c'est le contribuable, via l'État, qui doit être le payeur pour une pollution qu'il n'a pas générée. Donc, effectivement, le gouvernement proposait de renverser le principe pollueur-payeur, d'où l'émotion suscitée.
Bon, c'est sûr, ce scénario qui avait pourtant reçu l'aval de Lobby Magazine et qui avait été rédigé, oui, c'est ça, qui avait été rédigé discrètement par de mystérieux services qui, selon Ségolène Royal, avaient cru bien faire, eh bien, il a fait long feu. L'amendement enterrant le principe pollueur-payeur a été retiré alors qu'il était censé être défendu au nom du gouvernement par Barbara Pompili, toute nouvelle secrétaire d'État à la biodiversité, autrement dit une bombe politique entre ses mains. Hein. C'est une manière de tester, vous savez, l'aptitude des nouveaux promus à avaler des couleuvres, charmant reptile que l'on prépare spécialement pour les écolos tentés par une expérience gouvernementale, et ceci quelle que soit la tendance de l'exécutif. Alors c'est assez drôle parce qu'en fait au premier paragraphe, vous installez le préjudice écologique, il est enrobé dans un très joli papier cadeau, et puis paragraphe suivant, paf, on le désactive avec un amendement toxique pour la biodiversité. Au moins à la faveur de cette loi sur la biodiversité, on aura pu voir émerger une nouvelle espèce végétale dont on peut faire de jolies salades et qui répond au doux nom de cacophonia gouvernementis. Je vous le disais, l'actualité est riche. Bon, alors aussi, maintenant, quoi de neuf au rayon transition énergétique? Oh, que du banal. Ça peut se résumer à « on ne change pas une équipe qui perd ». Le président d'EDF, Jean-Bernard Lévy, vient de le rappeler à qui veut l'entendre. Pas de fermeture de centrale en France dans les 10 ans à venir et ça risque d'être exaucé, si on veut. En clair, pour qui n'aurait pas le décodeur, la loi de transition énergétique qui impose de ramener à 50% au lieu de 75% actuellement la part du nucléaire dans la production d'électricité a pas l'air de s'appliquer à EDF. Hein. On va quand même pas s'engager davantage dans le renouvelable. D'abord, les éoliennes, ça fait de l'électricité dans l'air. Et puis, EDF a d'autres chats et de déficits à fouetter. Non seulement il faut sauver le soldat Fessenheim, mais en plus, il faut prévoir des perfusions pour tous les copains du même régiment. Le parc nucléaire ancien ne cherche même plus à dissimuler son obsolescence. On a Areva. Quant à la relève via la filiale EPR, elle collectionne déjà quelques casseroles. C'est ainsi que de matériaux défectueux en retard en tout genre, le prix de l'EPR de Flamanville continue de grimper. Bon, mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez, hein, pour 9 ou 10 milliards, vous n'avez plus rien. Bon, le contribuable citoyen boira-t-il la cuvée du nucléaire jusqu'à la lie avec une augmentation du tarif électrique en vue? En tout cas, dans un tel contexte d'amendement biodiversité pour le moins baroque et d'EDF incarnant la supériorité sans partage du corps des mines, nous avons une pensée pour tous nos frais ministres écologiques. Oui, car quand on possède une sensibilité écologiste et qu'on entre au gouvernement, il est plus facile d'être placé que gagnant. Voilà, autour de la table. Et tenez, on va commencer avec vous, chère Corinne Lepage. Bonjour Corinne Lepage.
Bonjour Denis.
Alors vous êtes présidente à la fois de CAP 21 et vous êtes avocate environnementaliste. Hein. Plutôt dans la version « je ne détruis pas la planète » plutôt.
Oui, parce que chez les avocats environnementalistes, il y a les deux catégories. Ceux qui protègent, puis ceux qui sont là pour détruire et fichent par terre le travail des premiers.
Voilà. Bon,
donc je fais partie de la première catégorie.
Et donc bien sûr, on le rappelle aussi, donc, ancienne ministre de l'Environnement, donc vous connaissez tout ça gentiment par cœur. Quelle était un peu votre réaction, sans vouloir enfoncer les choses, mais aujourd'hui sur ce qui s'est passé là cette semaine?
C'est assez terrifiant. Je vais vous dire, moi, mon point de vue, c'est que j'ai jamais été pour cette loi. Pourquoi? Parce qu'on a déjà tout ce qu'il faut. Il y a un super arrêt Erika qui a été rendu par la Cour de cassation française qui dit qui peut percevoir le préjudice écologique, les communes et les associations. Bigre, ça tombe bien, c'est généralement eux ceux qui se battent.
C'est ça.
Et puis qui dit comment on le calcule. Bon. Donc la loi, elle arrive, elle dit je vais vous faire un symbole formidable avec le préjudice écologique. Super. Sauf que derrière, on vous dit ouais, on va réparer que ce qui est grave et durable. Ensuite, si on peut pas réparer en nature, il n'y a qu'une personne qui peut avoir des sous, c'est l'État.
Et plus
pas de chance, pas de chance pour les communes, pas de chance pour les associations, pas de chance pour les professionnels qui ont fait en fait toute la jurisprudence sur le préjudice écologique. En 40 ans de carrière, je n'ai jamais vu l'État demander la réparation du préjudice écologique, il s'en fout complètement.
Ouais. Mais ce que vous êtes en train de dire, c'est que ceci peut aussi assécher donc les associations.
Bien sûr, un procès, c'est lourd, ça coûte beaucoup d'argent, c'est pas seulement les avocats, j'entends déjà ce qui peut se dire. Non, c'est les expertises, c'est tout le temps que cela prend, et par conséquent, il faut bien que les associations puissent vivre. Mmh. Et là, on est en train de leur couper les pattes. Alors, l'amendement que j'ai appelé scélérat, dans ce que j'ai écrit, c'était la cerise sur le gâteau. Là, c'est exactement ce que vous venez de dire, donc je n'y reviens pas. C'est absolument impensable, c'est contraire au droit européen, c'est contraire à la charte de l'environnement, et c'est contraire au droit français qui dit que toutes les autorisations sont toujours délivrées sous réserve du droit des tiers. Ça veut dire quoi en bon français? Ça veut dire que quand l'État donne une autorisation, les tiers qui sont lésés, ils peuvent demander réparation si ça leur crée un dommage.
Alors ça, c'était la première actualité sur le préjudice écologique, la seconde sur les centrales, qui évidemment fait beaucoup de vagues là aussi. Et remarquez, s'il y a des vagues, peut-être qu'on pourrait s'occuper de l'énergie ou de l'eau motrice. Mmh. Mais bon, on n'est pas complètement là. On rappelle qu'il n'y a pas de durée de vie, en fait, aux centrales. Il y a dans la législation, il n'y en a pas.
La loi ne fixe pas de durée de vie. Ceci dit, comme disent certains, la durée nominale des centrales, c'est 30 ans. C'est-à-dire qu'on les a construites pour qu'elles durent 30 ans. Donc quand ça va au-delà, c'est au-delà de ce qui a été pensé au départ. Et donc, on a aujourd'hui en France, heureusement, un gendarme du nucléaire qui s'appelle l'Autorité de Sûreté Nucléaire, qui est là pour dire, mais attendez les gars, moi j'ai pas dit que vous pourriez aller jusqu'à 40 ans. Je me réserve au cas par cas de dire si c'est oui ou si c'est non.
C'est bien ce qu'affirme M. Chevet, qui est assez courageux actuellement, comme directeur
Très courageux. Son interview à Libé était quand même très courageuse et entre les lignes assez flippante. Parce que quand il dit que moi, Autorité de Sûreté, je peux pas faire tout le boulot, et c'est l'exploitant qui est d'abord le garant de la sûreté, et qu'on voit comment cette sûreté est traitée, franchement, c'est flippant.
Le couvercle de 110 tonnes de Flamanville va être posé, alors que l'ASN, donc l'autorité de sûreté nucléaire, a dit c'est peut-être bien de ne pas le faire quand même tout de suite.
Hein. Bah oui, parce que vous savez qu'il y a une expertise sur l'acier de la cuve et du couvercle. Ils veulent passer en force, j'allais dire, comme d'habitude. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent le couvercle pour sceller le tout. L'ASN dit, mais attendez les gars, moi j'ai pas donné mon feu vert. Ça veut dire que vous êtes en train d'ajouter un surcoût si d'aventure je ne le donnais pas. Donc en fait c'est quoi? C'est une pression très forte faite sur l'ASN pour dire, vous allez quand même pas nous demander d'enlever ce couvercle alors que maintenant il est mis. C'est ça qui est derrière la tête de ceux qui agissent comme
alors,
ça.
Aujourd'hui, on le sait très bien, énergie renouvelable, oui certes, mais c'est pas suffisant pour faire cette transition. Quand on regarde les pourcentages, faut être quand même tout à fait lucide pour la part d'électricité. Mais doper les énergies nucléaires et faire baisser la part du nucléaire, c'est envisageable ça en France?
Bien sûr. Quand vous regardez la manière dont le renouvelable a monté en Europe, il y a des pays qui ont dépassé les 50%.
Hein. Tout à fait.
La Suède est au-delà de 50%.
Et on rappelle que les investissements en 2014, là je parle d'investissements mondiaux, sur les énergies renouvelables, a dépassé, enfin à peine, mais quand même, les investissements dans les énergies fossiles.
Absolument. Donc tout le monde s'y met, il y a Astérix qui n'en veut pas, c'est nous. C'est-à-dire que nous, on continue avec le nucléaire. Alors, ce ne serait pas grave si, un, on avait un nucléaire très sûr, il l'est de moins en moins, si, deux, ça ne nous coûtait pas les yeux de la tête, et je n'ose faire à l'antenne l'addition de la dette réelle de l'industrie nucléaire, qui, dans mon esprit, est de 100 milliards pour ce qui est déjà dû, auquel il faut rajouter les 100 milliards du grand carénage, et... Troisième problème.
Alors le grand carénage, c'est, on va dire qu'en gros, c'est le botox pour les 58 centrales nucléaires, réacteurs nucléaires, pour les amener à 50 ans.
C'est ça. Et ensuite, le troisième problème, c'est que le nucléaire est en train de devenir l'énergie la plus chère du monde. C'est-à-dire qu'on voit une baisse constante du solaire, de l'éolien. J'entendais en venant tout à l'heure que l'éolien était devenu la troisième source énergétique d'Europe cette année. Donc nous, on est toujours avec notre nucléaire qui va nous coûter les yeux de la tête et on n'investit pas dans le renouvelable. Et évidemment, on n'a pas de grande filière française.
Femme et environnement, maintenant c'est le thème. Et vous allez voir que nous avons des choses très positives à se raconter avec Caroline Revol et puis tous nos invités en direct et enregistrés.
Suis-moi, là où je sais où, suis-moi. Et si je suis pas, suis-moi, là où le Michelibou. Suis-moi, on y est ou presque, suis-moi. Là où rien ne presse, suis-moi. Et v'là que nous y voilà. S'pose, c'est si bon quand on s'pose. Plus de questions et qu'on ose ouvrir enfin les bras. S'père, c'est si bon quand on s'père. Sans ces espèces de repères qui nous repèrent même pas. S'pomme, c'est si bon quand on s'pomme. D'être si
do 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 do
Camille, c'était Suis-moi sur France Inter dans ce haut de mon amour. Nous parlons des femmes et de l'environnement aujourd'hui. Et tenez, on va commencer par un petit son. J'avais reçu la mairesse de la Possession, commune de La Réunion, 30 000 habitants. Donc Vanessa Miranville, et qui, on avait gardé ce petit son-là, spécialement pour cette émission, par rapport aux femmes et à l'environnement. Quelle était sa sensibilité par rapport à cela?
Le fait d'enfanter fait que les femmes, par définition, ont le sens du long terme. Parce qu'un enfant, c'est... Allez, minimum 20 ans à s'en occuper. Oui. Donc, c'est dans nos gènes de sentir cette nécessité de prendre soin. Et finalement, prendre soin d'un enfant, prendre soin de la planète, je pense que ça relève de la même chose. Et je me sens d'avoir lu également quelque chose du philosophe Laurent Gounel qui était très intéressant. C'est que l'homme, n'ayant pas cette capacité à enfanter, finalement, il enfante quoi ? Des projets et des réalisations. Et on a dans le vocabulaire plein d'expressions. La montagne a accouché d'une souris, ce projet a avorté, etc. Parce que finalement, c'est la façon pour l'homme de laisser sa marque dans l'histoire. Mais finalement, on essaye de la laisser à court terme et on oublie que ça n'est pas le bâtiment ou le monument avec son nom écrit sur une plaque qui compte. C'est est-ce qu'on aura changé et amélioré la vie des gens avec qui on vit.
Voilà, nous, c'est notre journée des droits de la femme aujourd'hui. Oui, avec quelques jours d'avance sur France Inter. Terre Sauvage, vous connaissez donc ce mensuel. Je reçois donc Caroline Revol, qui est la nouvelle rédactrice en chef. Bonjour Caroline.
Bonjour Denis.
Nature, ces femmes qui s'engagent. Vous avez souhaité donc mettre en avant toutes ces femmes. Elles sont évidemment très, très nombreuses. Alors, évidemment, il y a celles qui sont connues, mais il y a toutes les millions d'anonymes, celles qui nous écoutent, qui sont dans le monde associatif, qui peuvent être élues, qui se battent au quotidien. C'est aussi à celles-là que vous rendez hommage. Qu'est-ce que vous avez voulu faire, vous, à travers ce numéro ?
Alors justement, nous, à travers ce numéro, on a voulu commencer par rendre hommage à la fois aux grandes dames qui ont marqué le combat pour la nature, et aussi à toutes ces anonymes qui, comme vous le disiez, aussi bien à travers les associations qu'à travers parfois leur vie quotidienne, s'engagent pour défendre la nature.
Si on prend par exemple Wangari Maathai, que l'on connaît, mais c'est bon de le rappeler, cette femme-là n'est plus là aujourd'hui, mais qui a quand même fait un boulot absolument formidable en Afrique.
Wangari Maathai, le mouvement Green Belt qu'elle a lancé en 77, a planté à ce jour plus de 50 millions d'arbres au Kenya. Donc voilà, Wangari Maathai, qui est née en 1940, il me semble, au Kenya, qui a consacré sa vie entière à reboiser son pays, mais avec une particularité qui est une sorte de fil rouge quand même par rapport aux engagements qu'on a mis en avant dans ce numéro de Terre Sauvage. Sa particularité, c'est qu'elle a décidé de faire confiance à des femmes qui étaient des paysannes et qui n'étaient pas considérées comme les expertes, les grands savants qui avaient toutes les clés scientifiques, etc., pour faire bouger les choses. Mais elle s'est dit, les paysannes de mon pays qui savent planter pour se nourrir, il n'y a pas de raison qu'elle ne s'engage pas pour planter des arbres. Et cette confiance qu'elle a mise dans des femmes qui n'étaient pas éduquées, qui étaient vraiment des paysannes, a fait partie en fait du terreau du succès de son mouvement.
Corinne Lepage, vous avez aussi bien sûr été députée européenne. Comment ça s'est passé ? Parce que là, en fait, il y avait une espèce de transcourant au Parlement.
Oui, alors moi j'étais à la commission santé-environnement. Oui. Et il est de fait que chaque fois qu'il y avait besoin de monter au créneau, et d'être un peu tapé un peu du poing sur la table. On était toujours les mêmes, on était cinq nanas, tout parti politique confondu, toute nationalité confondue, toujours les mêmes, à monter au créneau. Et certains nous appelaient les gangs des sacs à main.
Ah oui, quand même.
Oui, quand même. Non, parce qu'on ne se laissait pas faire, quoi. Et on s'organisait assez bien, finalement.
Ouais. Alors, évidemment, on peut citer plein de personnes que l'on connaît sur France Inter, bien sûr, Isabelle Autissier, Marie Blandin, qui est aussi sénatrice, qui a fait avancer beaucoup les choses, Laurence Subiana, Michel Rivasi, Cécile Duflot. Enfin bon, après, peu importe si vous voulez les critiques que l'on peut émettre, en tout cas, il y a une réalité, c'est que toutes ces femmes souhaitent être organisatrices, on va dire, d'un monde qui est différent, qui est moins destructeur, moins manipulateur peut-être dans cette société qui est devenue, alors je crois qu'il faut le dire, on est dans une société de réparation aujourd'hui.
Oui, et puis je pense, alors ce que disait la mère que vous avez interviewée sur le temps long me paraît quelque chose de très important. Il y a une deuxième chose qui me paraît très importante, c'est le concret. C'est-à-dire qu'en règle générale, il y a toujours des exceptions bien sûr, les femmes aiment bien ce qui se passe vraiment, ce qui se fait. Beaucoup d'hommes se contentent de bonnes paroles. Et puis l'intendance suivra, sauf qu'on sait que l'intendance, elle ne suit jamais. Les femmes ont une vision beaucoup plus concrète des choses et de la manière d'aller dans les détails, c'est-à-dire de faire en sorte que les choses se fassent et se fassent convenablement. Et ça, je crois que c'est assez féminin.
Alors, je vais vous donner un exemple avec Mathilde Bois-Dubu, qui représente la fondation Raja Daniel Marcovici. C'est une fondation donc, qui agit en faveur des femmes, qui a été créée par le groupe Raja, donc à l'initiative de sa PDG, Daniel Capel Marcovici, donc fortement engagée en faveur des femmes, pour agir en faveur de l'autonomisation, de l'émancipation, donc la défense des droits des femmes. Il travaille aussi sur la lutte contre les violences faites aux femmes et bien évidemment sur les problèmes écologiques. Donc elle ne pouvait pas être avec nous, donc je l'ai enregistrée hier. Et voici ce qu'elle nous dit, et donc le travail qui est réalisé avec un exemple très intéressant.
Alors, les femmes, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est d'abord les premières victimes du changement climatique et de la dégradation de l'environnement. Il est aujourd'hui prouvé que les populations les plus pauvres sur la planète sont les premières victimes de ce changement climatique. Or, les femmes représentent 70% des personnes vivant avec moins de $1 par jour. Et en plus, les femmes, du fait des stéréotypes, des injustices qu'elles doivent subir, ce sont elles qui sont en charge, notamment, de tout ce qui va être tâches domestiques, comme aller chercher de l'eau, comme aller chercher du bois dans les pays en développement. Ce sont aussi souvent elles qui sont en charge de la principale partie des activités agricoles. Or, du fait du changement climatique et de la dégradation de l'environnement, c'est de plus en plus difficile pour elles d'aller chercher de l'eau. Il faut aller de plus en plus loin. Pareil pour le bois et pour les activités agricoles. Leurs conditions de travail se dégrade aussi forcément.
Mathilde Bois-Dubuc, si nous partons au Nicaragua, qu'est-ce que l'on voit ?
Alors, au Nicaragua, la Fondation soutient un projet mis en œuvre par l'association Habitat Cité, à côté de Granada. Granada, donc, c'est une très belle ville coloniale avec énormément de bâtiments en terre crue, des bâtiments coloniaux. Et nous, donc, le projet qu'on soutient, il se passe dans un bidonville à côté de Granada qui s'appelle Pantanal, où les populations vivent dans des conditions absolument déplorables, notamment parce que souvent les familles vivent dans des maisons qui sont faites avec quelques planches de bois, un toit en tôle, des maisons où il fait une chaleur absolument insupportable l'été et puis où l'hiver souvent il pleut tout simplement dans la maison. Et les femmes, elles, vivent vraiment des conditions de vie difficiles, dans le sens où déjà la société nicaraguayenne, c'est quand même une société très machiste, donc elle doit faire face vraiment à de nombreuses violences et de nombreuses discriminations. Et en plus, souvent, ce sont dans la majorité des cas, des femmes seules en fait, qui doivent lutter pour faire vivre leur famille. Et le projet qu'on accompagne, il a permis de former ces femmes à la construction en terre crue, donc la construction de bâtiments écologiques. Donc ces femmes, elles ont appris à faire des briques, ensuite à construire des maisons, à faire des enduits. Et puis ensuite, elles ont vraiment pu comme ça construire leur maison de leurs propres mains.
Et puis alors, vous avez aussi une seconde phase de ce projet, et là ça touche bien sûr la nourriture, ce sont les fours écologiques.
C'est vrai que jusque-là, les femmes, pour préparer les repas, souvent, on pose trois pierres par terre, on pose la marmite dessus, et puis on cuisine comme ça avec énormément de fumée, d'émissions de gaz à effet de serre, et puis aussi les gros risques que les enfants, les petits, se brûlent gravement à cause de ça. Donc les femmes, maintenant, construisent des fours écologiques qui non seulement émettent moins de gaz à effet de serre, aussi, elles utilisent moins de bois, donc ça limite la déforestation. Elles ont moins de fumée dans leur maison. Et du coup, les femmes qui souvent, en fait, vivent en produisant à la maison de la nourriture qu'elles vont ensuite vendre dans la rue, ça permet aussi d'améliorer leurs activités. Elles ont plus de rendement, elles utilisent moins de bois, donc ça leur coûte moins cher. Et puis, elles peuvent ainsi améliorer leurs revenus et améliorer leurs conditions de vie et celles de leur famille. Et ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'il permet aussi de changer les mentalités localement. C'est vrai qu'avant, la construction en terre, comme ça, c'était plutôt quelque chose réservé aux hommes. Et maintenant, on voit que les femmes, elles peuvent aussi construire. Et c'est, encore une fois, dans cette société très machiste, c'est un changement de mentalité.
Mathilde Bois-Dubuc, comment ça se passe ? C'est une fondation qui va là-bas, qui travaille avec d'autres fondations sur place ? Comment vous fonctionnez ?
Alors, en fait, on est ce qu'on appelle une fondation opérateur. C'est-à-dire qu'on ne met pas en œuvre directement, nous, de projets sur le terrain, mais on va soutenir des associations, projets des associations françaises qui mettent en œuvre des projets sur le terrain et toujours en partenariat avec des associations locales, parce que ça c'est extrêmement important aussi de développer les capacités de ces associations locales et pas d'arriver de France en plaquant des projets. La meilleure façon en fait de se rendre compte de l'impact de ces projets, c'est d'aller voir les femmes bénéficiaires, et quand elles nous disent effectivement que grâce au projet leurs conditions de vie ont complètement changé, qu'elles ont par exemple pour les maisons aujourd'hui un un toit au-dessus de la tête, la sécurité pour leur famille, ou alors au niveau de leur four, que ça leur permet vraiment d'améliorer leurs revenus et, donc leurs conditions de vie. C'est comme ça qu'on se rend compte vraiment de l'impact de ces projets et plus largement de notre action.
Mathilde Bois-Dubuc, donc de la Fondation Raja Daniel Markovici, il travaille sur à peu près 16 pays, fondation sous l'égide de la Fondation de France, et qui travaille donc aussi bien en Inde, en Amérique du Sud, en Afrique. Voilà, on fait partie de ces petites gouttes, mais c'est quand même extrêmement important. J'ai reçu tout à l'heure aussi, donc, cette annonce, Berta Cáceres, ça vous dit rien? Bah, c'était une militante écologique, écologiste, qui a été assassinée au Honduras. Voilà, donc tout à fait récemment, là, il y a quelques jours. Elle était évidemment contre un barrage, contre des choses absolument énormes, donc au Honduras, sur une rivière sacrée, et donc elle a été assassinée. Caroline Revol, je le rappelle, donc rédactrice en chef de Terre Sauvage. Qu'est-ce qu'on a comme autre portrait? Alors tout à l'heure, on va parler des primatologues, hein, on se les garde gentiment sous le coude. Mais qu'est-ce que l'on a? J'ai vu aussi qu'il y avait il y a ce prix très intéressant, prix Terre de Femmes, hein, de Yves Rocher, depuis de très nombreuses années, en faveur de la reforestation. Cette année, c'était qui?
Cette année, le prix qui a été remis cette semaine a été remis à Delphine Roulet, qui est une Française qui dirige l'association Elpsimus, qui s'occupe de lémuriens à Madagascar. Et c'est vrai que c'est un prix qui est assez important quand on parle de nature et environnement. C'est pour ça qu'on y a consacré quelques pages dans notre numéro de Terre Sauvage. C'est vraiment le prix qui récompense les anonymes. Oui. C'est vraiment celui qui va chercher les petites initiatives de terrain menées par des femmes et qui, mises bout à bout, réussissent à changer le monde ou au moins à donner des idées sur ce qui pourrait être. Et justement, sur ce prix Terre de Femmes, il y a eu... je pense que l'engagement au féminin, il marche aussi parce que les femmes acceptent de débuter par des petites choses. Et j'ai l'impression que le fil rouge, au-delà de la capacité d'enfanter, etc., qui pour moi sont des postures un peu essentialistes, mais je veux dire, pour moi, le fil rouge, c'est d'accepter de commencer par des petites choses qui ne vont pas donner des médailles tout de suite, mais des petites choses du quotidien.
Corinne Lepage.
Oui, c'est vrai, ça rejoint le sens du concret dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que de faire ce qu'on peut là où on est. Voilà. Et avec un peu d'imagination et un peu de courage, même parfois beaucoup de courage.
L'amour s'en va, l'amour de toi. L'amour de moi, l'amour qu'on a, l'amour qu'on a fait autrefois. L'amour s'enfuit, l'amour s'en fout. L'amour s'assoit un peu sur tout et l'on se suit un peu partout. L'amour traîné dans la boue. L'amour s'en va, l'amour de toi. L'amour de moi, l'amour qu'on a, l'amour qu'on a fait autrefois. L'amour sépare, l'amour répare. C'est pas simplement une partie de plaisir quand c'est fini, quand c'est parti. Des souvenirs ensevelis au fond d'un lit, dans un recueil, l'amour. C'est du bonheur ou c'est un deuil. Là sur un banc, une cour d'école. Du bout des doigts, l'amour ça colle. Dis-moi pourquoi. L'amour s'en va, l'amour de toi. L'amour de moi, l'amour qu'on a. L'amour qu'on a fait autrefois. L'amour à qui? L'amour à quoi? L'amour c'est comme une allergie qui reprend des fois. Et ça vient fou. L'amour c'est tout. L'amour c'est rien ou rien du tout. C'est tout ou rien. L'amour s'éteint à bout de souffle. Des sentiments, il y en a tant, il y en a trop. C'est dérangeant quand ça se répand.
L'amour s'en va. Oui, c'est des choses qui arrivent aussi. Voilà. Pas très fort. C'était Nord sur France Inter, issu de la playlist de notre chaîne.
Je suis sur un coup là.
Aïe.
Une forêt. Avec ça, t'es tranquille jusqu'à la fin de tes jours. La forêt, c'est là qu'il faut investir.
Où ça?
Dans le Nord. Mais faut se décider vite.
Et qu'est-ce que tu comptes en faire de cette forêt?
Du bois à brûler.
Ah.
Quoi? Ah, y a pas que les éoliennes. Le bois, c'est de l'énergie, c'est bio, ça pollue pas. Puis c'est encore abordable, mais pas pour longtemps. Hein. Ça va grimper, je te le dis. D'ailleurs, ça grimpe déjà.
Va te chercher ta brosse à dents.
CO2, mon amour, Denis Chessoux, sur France Inter.
Ah bah oui, c'est tout à fait facétieux. Et Marion Philippe aussi, qui a travaillé sur la préparation de cette émission, souriait également, donc toujours en direct avec Corinne Lepage, avec Caroline Revol de Terre Sauvage. Une femme qui est dans Terre Sauvage, chez Vandana Shiva, hein, Caroline Revol.
Mm-hmm.
Ouais. Et donc cette femme, on la connaît, c'est-à-dire que c'est une militante écologiste indienne très engagée, emblème, on va dire, mondial hein, de la révolution écologique, chef de file du mouvement altermondialiste et qui s'est bagarrée pour garder les semences, qui s'est bagarrée contre les OGM. Monsanto n'est pas un ami particulier, c'est le moins que l'on puisse dire. Et j'avais rencontré Vandana Shiva, vous l'avez bien entendu, au mois de février 2015. Et donc, une question, c'est vrai qu'en Inde et dans le monde, plus de la moitié de la nourriture est produite par les femmes. Vandana Shiva.
I was asked in 1980s. Dans les années 80, on m'a demandé de mener à bien une étude sur les femmes et l'agriculture au sein de l'Université des Nations Unies. Et j'étais très surprise lorsque j'ai vu le résultat. Nombre des femmes étaient celles qui étaient sur les champs, parce que vous voyez, lorsqu'on voit l'imagerie en fait d'Épinal, de cet agriculteur moderne derrière son camion, son tracteur et avec son chapeau, on ne voit pas les femmes qui sont derrière. Et souvent, dans les fermes, de toutes ces fermes, les femmes sont celles qui s'occupent de toutes les graines, qui les sauvent, qui les transmettent. Et nombre, notamment des cérémonies en Inde, des cérémonies du Nouvel An, passent par toute cette culture des racines où les femmes, en fait, dans des cérémonies longues, en fait, prennent des graines, les plantes et choisissent celles qui seront les bonnes et celles qui seront utilisées pour l'année suivante. C'est elles qui choisissent les variétés, c'est elles qui vont les développer et c'est quelque chose de tout à fait impressionnant. Et donc, si l'on comprend la nourriture et les graines de cette manière, je crois que c'est parce que le paradigme même de l'industrialisation et de cette patriarcat qui en fait est développé montre que il faut simplement continuer à développer cela et on laissait les petites choses aux femmes. Et on se rend compte que si les femmes n'avaient pas pris en charge les graines, pris en charge de nombreuses activités dans les fermes, nous n'en serions pas aujourd'hui où nous en sommes. Et si nous laissons simplement le profit nous diriger, eh bien, nous allons contre un mur parce que, vous savez, parce que cette recherche du profit détruit la culture, détruit l'économie. Tous les pays, que ce soit la France, la Grèce, l'Inde, les gens sortent dans les rues, les gens manifestent parce que les profits, les bénéfices qu'essaient de tirer les banques ou ces industries finissent par donner un modèle d'économie qui ne correspond pas aux besoins des êtres humains.
Vandana Shiva, j'aimerais juste revenir sur votre histoire personnelle. Quel était votre lien avec la terre et est-ce que chez vous on pratiquait l'autonomie alimentaire?
Le lien avec la terre, pour moi, c'est quelque chose de magnifique. Vous savez, mon père était un garde forestier. Et c'est vrai que je suis née en pleine forêt. Et ma mère, qui est devenue une réfugiée et qui, au départ, était une fonctionnaire, a finalement décidé d'être une agricultrice lorsqu'elle a été déplacée. Elle s'est installée. Et c'est vrai que nous étions entre la forêt, mon père travaillait, et la ferme où ma mère, elle aussi, cultivait. Et c'est vrai que la nature a été dès le départ mon terrain de jeu et là où j'ai tout appris. Ma mère avait donc cette ferme où nous produisions notre propre nourriture et c'est vrai que ma famille était très consciente en fait de manger sain et manger toujours selon ce dont on avait besoin. Il n'y avait pas de gâchis. C'est vrai que nous avions par exemple des chèvres pour le lait et nous avions des légumes et nous avons grandi avec cela autour de nous et c'est ce qui nous a donné cette force. Et ma mère avait son propre jardin même là où nous habitions en forêt et nos parents nous encourageaient. Ils disaient voilà pourquoi vous n'avez pas une petite parcelle, un petit lopin de terre vous aussi, vous pouvez cultiver vos propres légumes. Et puis donc, déjà très jeune, on avait notre petit lopin de terre et on cultivait et cuisinait notre propre alimentation.
Et votre père vous emmenait donc en forêt, donc vous avez été nourri aussi donc par ces forêts nourricières. Et après, un de vos premiers combats, vous aviez donc 21 ans, c'était de vous retrouver aux côtés de femmes qui ont défendu véritablement leur forêt.
Comme je vous l'ai dit, comme j'ai grandi dans cette forêt himalayenne et que j'ai vu la forêt, j'ai vu des rivières s'écouler. Lorsque je suis rentrée et que j'ai revisité ces ruisseaux, ces sources, j'avais vu que les sources étaient taries, qu'il n'y avait plus d'arbres là où avant il y en avait d'autres, et que la nature avait vraiment souffert ces années où j'avais été loin. Et c'est là où j'ai commencé à m'inquiéter. Et j'ai entendu parler du mouvement Chipko, qui sont en fait des femmes qui enlacent des arbres dans ma région. C'est-à-dire qu'elles venaient protéger des arbres. Elles étaient prêtes à sacrifier leur vie pour protéger en fait les arbres des bûcherons. Donc elles étaient entre les arbres et les haches. Et donc elles ont mené une lutte pendant plusieurs années et normalement, ils ont pu en fait arrêter en fait cette coupe sauvage qui était menée dans cette forêt de l'Himalaya. Parce que ces femmes disaient, vous savez, ce ne sont pas des sources de bois, en fait, elles ne peuvent pas être des sources de revenus, ces forêts. Elles sont là pour nous offrir cette eau, cet air pur. Et c'est vrai qu'au moment qui a suivi donc cette lutte, il y a eu des déluges, il y a eu des inondations qui étaient liées en fait à cette déforestation. Et le gouvernement a enfin pris conscience qu'effectivement, il fallait protéger la forêt. Et moi, je suis tellement reconnaissante à ces femmes d'avoir lancé cette action. Et j'ai assisté à cette université de Chipko et lors de cette université que nous avons créée. Ces femmes qui n'avaient jamais été à l'école ont pu m'expliquer, m'ont appris tellement de choses sur le travail au sein des communautés, sur la défense de l'écologie. Et c'est vrai que Chipko, au départ, a été la base par la suite de toutes nos lois environnementales en Inde. Il faut quand même le dire.
Vandana Shiva avec une traduction de Paloma Boulmo. Et Vandana Shiva, bah vous la retrouvez dans ce numéro de mars de Terre Sauvage, Nature, ces femmes qui s'engagent. Et là, on est en plein dans l'écoféminisme, Caroline Revol.
Oui, tout à fait. L'écoféminisme, c'est une notion qui a été développée par une Française, Françoise Daubonne, dans les années 70. Et c'est une notion autour de laquelle Vandana Shiva a beaucoup travaillé et dont elle m'a parlé dans l'interview qu'on a fait pour Terre Sauvage. L'idée de Vandana Shiva par rapport à cette notion d'écoféminisme, c'est de se dire que les pensées, les structures et les institutions qui oppressent la nature sont les mêmes pensées, structures et institutions qui oppressent les femmes. Donc elle parle de capitalisme patriarcal, capitalisme pour la notion d'appropriation des ressources naturelles notamment, et patriarcal pour la notion de domination un peu à tout prix d'un sexe sur l'autre. Donc quand elle parle d'écoféminisme, elle n'est pas là pour dire qu'il faut que les femmes défendent la nature par essence parce qu'elles sont plus douces et plus sympas, mais que il faut arriver à changer de paradigme et à mettre en place un système de pensée qui permet à la fois de libérer la nature et de libérer les femmes. En gros, en se disant, oui, la nature est intelligente, oui, la femme est intelligente, elles savent très bien se débrouiller toutes les deux, merci pour elles. Donc c'est vraiment l'idée de l'écoféminisme qu'elle développe.
Et que l'on retrouve dans ce numéro, hein, on l'a déjà dit, mais on le rappelle, la moitié aujourd'hui donc de l'alimentation est produite quand même par des femmes. Que vous avez, Vandana Shiva, Corinne Lepage, vous l'avez connue, vous avez milité, je dirais, ensemble.
Nous travaillons ensemble sur un projet qui est maintenant public, qui est le tribunal Monsanto, qui devrait se tenir au mois d'octobre, et dont Vandana est une très ardente inspiratrice, oui. C'est quelqu'un aussi avec lequel j'ai beaucoup travaillé sur la question des OGM, ce qui est un sujet qui m'est cher depuis plus de 20 ans maintenant.
Puis vous êtes né pratiquement.
Pas tout à fait, mais je suis le ministre en France qui a interdit la mise en culture des OGM, ouais, grâce à Jean-Marie Pelt d'ailleurs.
Ouais, c'est vrai.
Grâce à Jean-Marie Pelt, qui m'avait à l'époque expliqué beaucoup de choses que j'ignorais totalement. Voilà, et donc nous faisons partie de cette même, je dirais, cette chaîne dans le monde, qui se bat contre les OGM. Parce que c'est l'appropriation du vivant avec le brevet et parce que les OGM qui existent aujourd'hui sont des éponges à pesticides.
C'est ça.
Ce qui nous ramène à tous les sujets qui sont dans l'actualité, et dont le glyphosate.
Alors justement, dans l'actualité, ça c'est intéressant, parce que, rebondissons dessus, le sort du glyphosate, qui est le principal composant du fameux Roundup, ça c'est le terme commercial, on devrait dire les Roundup, parce qu'il y en a beaucoup en fait des Roundup.
Alors en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un produit actif, c'est le glyphosate. Celui-là, il est autorisé au niveau communautaire. Ce sont les Allemands qui l'ont évalué, et c'est l'EFSA qui est censé contrôler l'évaluation faite par les Allemands. C'est une catastrophe. Parce que ce produit, on sait très bien qu'il pose des problèmes, sauf que l'EFSA évacue toutes les études qui montrent qu'il y a un problème pour ne retenir que celles qui montreraient qu'il n'y en a pas, qui sont bien souvent évidemment venues du monde industriel.
L'OMS a dit cancérigène probable,
tout à fait.
Tandis que l'EFSA, donc, c'est-à-dire l'Agence européenne de sécurité des aliments, elle minimise cette affaire-là.
Elle dit qu'il n'y a pas de problème, circuler rien à voir comme pour tout le reste d'hier. Donc, c'est l'Europe qui autorise le principe actif. Ensuite, ce principe actif est utilisé dans des produits, dont effectivement, principalement le Roundup. Et c'est chaque pays qui donne l'autorisation de mise sur le marché de ce produit, donc Roundup, avec beaucoup de Roundup d'ailleurs possible. Ce qui est très important, c'est que dans le Roundup rentrent un certain nombre d'autres produits qui sont des coadjuvants. Et qui ont pour capacité, Gilles-Éric Séralini a publié récemment des études très importantes là-dessus, qui multiplient d'un facteur 10, voire d'un facteur 100, la force du Roundup, donc sa toxicité. Et il n'y a, et ça c'est très important de le comprendre, aucune évaluation du produit. C'est-à-dire qu'on évalue le glyphosate, mais on n'évalue pas le Roundup. C'est un peu, si vous voulez, comme si on évaluait la nicotine et pas la cigarette.
Bien sûr.
Complètement crétin.
D'accord.
Bon, et ben voilà, c'est ce qu'on fait pour le Roundup. Donc c'est important de voir ce qui va se passer.
Alors justement, ça c'est l'actualité. C'est le sort du glyphosate va se jouer pour les 15 prochaines années. Ça va se jouer à Bruxelles la semaine prochaine. La France et Ségolène Royal viennent de prendre officiellement position contre le renouvellement de l'autorisation du pesticide aujourd'hui.
Voilà. Bravo. Quand c'est bien, il faut dire, c'est formidable. Il faut soutenir. Donc c'est très bien, j'espère qu'il y aura beaucoup d'autres pays. Je crois que les Pays-Bas ont pris la même position dans ce que j'ai pu voir et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Mais les pressions Monsanto et américaines sont très fortes et n'oubliez pas, car il ne faut jamais oublier en ce moment, que derrière tout ça, vous avez quelque chose qui s'appelle le TAFTA.
Oui.
C'est-à-dire les négociations Europe. États-Unis sur le commerce, qui veulent supprimer en fait toutes nos règles de protection alimentaire et sanitaire, et puis interdire le juge par la même occasion, puisqu'il n'y aura plus que des tribunaux arbitraux. Entre parties.
C'est formidable.
Monde rêvé.
Voilà. Donc là aussi, un portrait tout à fait positif dans ce numéro de Terre Sauvage consacré donc aux femmes. C'est Sylvie Monnier que l'on va retrouver, qui a 39 ans, qui est en Auvergne. Et cette femme donc est une militante de la cause des arbres. Et donc elle va nous expliquer ce qu'elle fait, Sylvie Monnier.
Moi, mon travail, et pas uniquement en Auvergne, mais avec d'autres collègues au niveau national, c'est de réconcilier, on va dire, le monde agricole avec leurs arbres et les arbres qui poussent dans les champs, donc sous forme de haies, d'alignement d'arbres, d'arbres isolés, etc. Aujourd'hui, pour réussir à faire réintégrer l'arbre dans l'exploitation agricole, il faut être obligé de lui donner une fonctionnalité. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'arbre, il sert à plein de choses. Il sert à plein de choses sur le plan environnemental, mais aussi sur le plan agricole, sur le plan climatique. Et c'est bien ça le cœur du sujet, c'est-à-dire redonner de la technicité à l'arbre et redonner envie aux agriculteurs de ou en replanter ou de gérer mieux. Et c'est bien cette entrée-là qui fait qu'aujourd'hui, on a énormément d'agriculteurs qui depuis 30 ans plantent en Auvergne et ça continue et ça se développe et de plus en plus.
Et lorsqu'il y a eu des coups de boutoir comme les fameuses sécheresses diverses et variées, là on s'est rendu compte aussi du rôle de la haie et du rôle de l'arbre.
On va dire que chaque crise agricole met clairement en avant les limites parfois des systèmes. Et c'est là où vraiment, effectivement, l'arbre retrouve toutes ses lettres de noblesse. Par exemple, les dernières sécheresses, on s'est rendu compte qu'on pouvait mettre les vaches sur plaquettes de bois, c'est-à-dire entretenir les haies de façon durable, déchiqueter les branches et mettre les vaches sur litière sous forme de plaquettes et non plus sous forme de paille. Or, le Cantal, par exemple, est un porteur net de paille avec une vraie trésorerie des exploitations agricoles qui sont mises à mal par cet achat de paille. travaillent. Et aujourd'hui, de se dire qu'ils ont la ressource sur l'exploitation, ben, c'est un bon moyen. Mais changer de pratique, voir une vision de l'arbre différente, ça demande tout un travail et dans un quotidien agricole, c'est pas facile. Du coup, effectivement, ben, une sécheresse, c'est aussi des périodes de crise où on se remet parfois en cause. C'est grâce à ces sécheresses qu'on arrive à faire passer des idées.
Et puis, vous avez véritablement travaillé avec le ministère de l'Agriculture hein, à la rédaction d'une nouvelle loi. Et donc, aujourd'hui, ben, vous avez donné un véritable coup d'arrêt à l'arrachage de ces haies parce que ça a toujours été une espèce de tapisserie de Pénélope. D'un côté, on arrachait pour faire passer donc, le gros matériel et puis ben, de l'autre, on essayait de replanter.
Alors c'est vrai que jusqu'en 2015, les haies étaient 100% libres, c'est-à-dire qu'on pouvait les arracher comme les replanter. On a tendance à dire que l'arrachage était bien supérieur à la replantation. Arrachage parfois justifié, parfois non. Ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'était effectivement arrêter les excès. Et effectivement, le ministre de l'Agriculture, aujourd'hui Stéphane Le Foll, est très sensible à la problématique de l'arbre et nous appuie bien au niveau national. Et effectivement, les choses ont changé l'an passé, c'est-à-dire que sur les surfaces primées à la politique agricole commune, donc les surfaces qui touchent des primes, eh bien l'arrachage des haies n'est plus autorisé. Donc effectivement, ça stoppe l'arrachage globalement au niveau national. Il y aura des ajustements à faire parce qu'il faut pouvoir laisser un peu de souplesse, hein, de la mobilité des haies, il faut pouvoir en arracher par endroits, en replanter ailleurs. Mais en tout cas, il y a un coup d'arrêt effectivement à l'arrachage brutal sur beaucoup d'espaces qu'aujourd'hui, de toute façon, les Français ne comprennent plus.
Alors je sais, Sylvie Monnier, que vous aimez beaucoup d'arbres, mais si on fait un petit focus sur le tilleul, lorsque l'on se promène chez vous, pas très loin de la vallée de la Santoire, on va tomber sur un tilleul merveilleux. Et que va nous offrir ce tilleul ?
Alors, on a des tilleuls remarquables dans le Cantal, qu'on appelle d'ailleurs très souvent des sulis, qui sont souvent historiques, donc plusieurs centaines d'années. Les tilleuls apportent beaucoup, ils apportent beaucoup pour les abeilles, ils apportent beaucoup pour l'environnement. Et à partir de cette année, on va récolter ces vieux arbres et on va les mettre dans notre nouvelle pépinière qu'on a créée dans le Massif Central. Et on va avoir de nouveau des descendants de ces jeunes arbres pour pouvoir en replanter dans nos haies. Mais effectivement, c'est un arbre assez merveilleux qui sert de parafoudre pour les habitations, qui sert effectivement pour les abeilles et pour plein de choses. Ouais. C'est vraiment un arbre assez symbolique dans le Cantal, qui servait de borne aussi. Hein. Ils ont une symbolique, ces tilleuls. Et donc voilà, nous aujourd'hui, on veut s'intéresser à leur origine génétique et retrouver cette origine génétique et les replanter dans nos haies.
Alors ce qui est assez formidable en vous écoutant, Sylvie Monnier, c'est que les choses peuvent être réversibles. Mais évidemment, il faut s'en donner les moyens, il faut y aller, l'écologie... On le sait, est un sport de combat, mais c'est aussi tout le travail que vous effectuez depuis des années. Et aujourd'hui, à 39 ans, bah, vous voyez donc des paysages qui reprennent une vie positive différente.
Oui, et puis c'est surtout que une fois qu'on a remis l'arbre avec sa fonctionnalité dans le système agricole, les agriculteurs sont parfaitement d'accord. Sur l'arbre, en fait, il n'y a pas de conflit agriculture et environnement. À partir du moment qu'on considère que tout arbre planté a un rôle environnemental, ça c'est sûr. Mais à partir du moment qu'on lui donne cette fonctionnalité agricole, vous réconciliez tout le monde. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est le travail de parole, de discussion, d'apport d'expérience, d'écouter énormément nos agriculteurs parce que eux savent témoigner, savent parler de l'arbre et savent en parler très bien et souvent mieux que nous, mieux que des chercheurs parfois. Et là, par contre, il faut savoir réutiliser ces témoignages, les réutiliser et avancer là-dessus. Aujourd'hui, c'est clair que c'est pas difficile de convaincre un agriculteur pour planter les arbres. Ils ont vraiment envie d'avancer tous sur ce sujet, y compris pour valoriser le bois énergie. L'arbre est assez facile, hein. C'est un sujet assez facile pour travailler par rapport à ça. Mais il faut du temps, il faut de l'animation, il faut être nombreux, il faut avancer. Et bon, ça c'est effectivement là le nerf de la guerre, parce qu'effectivement il faut des financements aussi. Non, j'ai tendance à dire que je ne vois pas plus de difficultés d'être une femme ou un homme, c'est avant tout d'aimer, vraiment d'aimer le monde agricole et de bosser avec eux, quoi.
Sylvie Monnier, donc en Auvergne, dans cette très belle vallée de la Santoire, 39 ans que vous retrouvez dans ce terre sauvage. Des Michel, bah, y en a qui nous écoutent, mais même si vous appelez pas Michel, vous allez aimer. I need to
what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you.
Ben oui, on aime la nature dans cette émission, donc on aime les scarabées, d'où cette fameuse chanson. Juste avant de se quitter quand même, c'est vrai qu'on va le faire un peu express, Caroline Revol, dans ce numéro de Terre Sauvage, quand même, les primatologues, des femmes avant toute chose, les primatologues, hein, Jane Goodall, Diane Fossey, etc. Enfin...
En tout cas, c'est une discipline qui a été révolutionnée par l'arrivée des femmes. Donc, on a décidé de s'y pencher, en effet. Donc, on raconte la grande histoire de la primatologie avec Goodall, Fossey, Birutė Galdikas. Et puis, surtout, on a essayé de savoir qui étaient les Jane Goodall de demain.
Oui.
Voilà, et raconter un petit peu...
Ah bon, on a Sabine Akrieff, quand même, qui est là. Emmanuel
voilà,
Goldman aussi.
Exactement, qui a rédigé le papier.
Oui.
Voilà, donc en gros, on a essayé de s'intéresser à ce qu'elles avaient permis de changer dans la primatologie, c'est-à-dire d'apporter un regard franchement nouveau et novateur sur l'étude des grands singes.
Tout à fait, voilà, c'est ça. Petite conclusion aussi, peut-être alors, conclusion, un petit mot de fin, on va dire comme ça, Corinne Lepage.
Simplement, c'est vrai que les femmes ont joué un rôle très important dans l'environnement. Vous regardez les commissaires, vous regardez Madame Brundtland, vous regardez les ministres de l'environnement. Je rappelle que Angela Merkel a été ministre de l'environnement.
Exact.
Oui, on l'était ensemble, donc c'est comme ça que je le sais. Mais voilà, et les présidentes d'associations, et il y a énormément de femmes engagées, et notamment dans ce secteur-là.
Voilà, et c'était aussi donc
c'était bien de faire une émission pour elles.
Et de parler vraiment de toutes les anonymes, hein, à la fois celles qui nous écoutent, celles que l'on ne connaît pas, mais qui militent dans les associations au quotidien, au niveau de leur quartier, de leur commune, que sais-je. Vraiment, il y a un boulot formidable, et ça nous fait du bien. Merci à Henri Bérec et Florent Layani à la technique, à Elisabeth Cornet, à Claire Destacan, à Marion Philippe, à Xavier Pestugia qui a réalisé l'émission, à Albert Houck, à Thierry Dupin qui a choisi les disques, Anne Gouzon qui nourrit les sites de CO2 Mon Amour. Le site, c'est vrai que la semaine dernière, ça n'avait pas marché. Vous n'avez pas pu vous exprimer tout de suite. Bon, là, je pense que ça fonctionne. Vous pouvez vous laisser les messages sur le franceinter.fr CO2 Mon Amour. Rediffusion cette nuit, si vous avez une insomnie, entre 4h et 5h du matin. Et puis quoi d'autre? Si, la tuile, mon petit loup, ce sera demain à 19h54 après les petits bateaux. Et la semaine prochaine, eh ben, je vous emmènerai, entre autres, dans l'Acro. C'est notre steppe occidentale qui se trouve dans les Bouches-du-Rhône, qui est coincée par plein de choses, mais il se passe des choses absolument merveilleuses.